Lynn se réveille en sursaut. Son pyjama lui colle à la peau. Cinquième nuit consécutive de cauchemar. Certaines nuits, elle ne garde aucun souvenir. Pas la moindre image de ce qui a bien pu lui coller ses sueurs froides. Juste une sensation d'épuisement au réveil. Elle a tenté les somnifères, mais le réveil était pire. Les cauchemars qu'elle avait faits lui semblaient encore plus réels que les autres. Elle se lève à pas de souris pour éviter de réveiller ses filles qui sont en congé et en profitent pour faire la grasse matinée. Elle prendra sa douche quand les ados seront réveillés. En attendant, elle se prépare un lait russe et s'installe à son ordinateur. 2 heures plus tard, elle entame la préparation du repas tout en poursuivant sa traduction. Elle se lève régulièrement pour aller vérifier la cuisson des légumes. Elle teste de plus en plus souvent des recettes végétariennes qu'elle invente au gré de ses envies. Son regard tombe sur la bouteille de vin entamée la veille. Elle se sert un verre et tandis qu'elle marche vers son bureau, elle entend une petite voix la prévenir. « Tu ne devrais pas mettre ton verre de vin sur le bureau. Tu vas le renverser, en mettre partout. »« De quoi je me mêle ?» riposte-t-elle à son égo avant de se replonger dans son texte. Une demi-heure plus tard, alors que son verre est encore à moitié plein, elle veut le prendre pour boire une gorgée et le renverse. Une fois de plus, elle est stupéfiée de cette coïncidence. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, pense-t-elle? Comment est-ce que je peux me souvenir d'un événement qui n'a pas encore eu lieu? J'aurais déjà vécu ma vie. Ceci ne serait que le reflet de ce que ma vie a été, le souvenir de ma vie. Nous serions comme ces étoiles dont on ne perçoit parfois la lumière que 1000 ans après qu'elles se soient éteintes. La vie ne serait qu'un jeu, comme disait César l'éclaireur. Ce serait vrai, toutes ces conneries de monde que l'on crée par notre propre pensée. Mais quel stress, dit, pense-t-elle. Il faudrait ne formuler aucune pensée négative, car ce serait par la pensée qu'on crée sa propre réalité. Non seulement il faudrait être très prudent avec les mots, tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler, comme dit l'adage, mais ce serait même pire, tourner 7 fois la salade dans l'essoreuse avant de la jeter dans l'univers. Je ne serais pas plutôt juste timbré d'y attacher de l'importance? J'ai peut-être renversé mon verre précisément parce que j'ai mis la peur de le renverser. Ou bien est-ce lié à notre perception du temps? Serait-il possible que le temps n'existe pas? Mais si le temps n'existe pas, pourquoi emporte-t-on les traces? Curieux paradoxe, songe-t-elle. L'épisode du verre a déclenché une nouvelle tornade de pensées. Il lui paraît anodin, une simple coïncidence probablement, mais il vient s'ajouter à une longue liste d'épisodes. Elle pense de plus en plus que les êtres humains ont plus de 5 sens, qu'ils peuvent appréhender le monde par d'autres biais que par la vue, l'ouïe, etc. Et ce qui est incroyable, c'est que ces sens supplémentaires sont tout aussi infaillibles que les autres. C'est nous qui ne savons pas encore trop comment bien nous en servir, pense-t-elle. En même temps, que veux-tu y faire, s'admoneste-t-elle en repensant à un souvenir qui lui revient en mémoire. C'était un dimanche. Il avait plu comme vache qui pisse. Comme Georges faisait réaliser une verrière sur le toit plat de la maison aménagée en terrasse, les ouvriers avaient percé la toiture. Le vendredi soir, en prévision des intempéries, ils avaient tendu une bâche sur une structure provisoire, juste au-dessus du trou. La pluie avait été tellement dense que des poches d'eau s'étaient formées un peu partout sur la toile, dont le poids risquait de casser la structure de bois. Georges s'était mis en tête de vider les poches d'eau par un système ingénieux. Il comptait utiliser le tuyau d'arrosage pour pomper l'eau en créant un appel d'air. Pour ce faire, il avait demandé à Lynn de l'aider. Il avait désigné un endroit précis de la terrasse intermédiaire, située un étage plus bas. « Tu te places ici, en tenant un bout du tuyau d'arrosage, pendant que je monte placer l'autre bout dans la poche d'eau », lui avait-il dit, avant de préciser, prévenant, « Fais bien attention de maintenir le tuyau près du sol pour ne pas être éclaboussé. » Alors que Lynn se tenait accroupie, pile poil à l'endroit désigné par Georges, elle avait eu le sentiment très précis qu'elle allait attraper quelque chose sur la tête et avait rentré instinctivement la tête dans les épaules. Elle s'était toutefois instantanément moquée d'elle-même, avait regardé vers le ciel à présent dégagé et s'était raisonnée. « Que veux-tu qu'il te tombe sur la tête, Zotemouche ?» Elle avait mis cette crainte infondée sur le compte du vent qu'elle entendait siffler dans le plastique des bâches. Tout à coup, elle s'était pris une centaine de litres d'eau glacée sur la tête, Georges ayant déplacé malencontreusement un des piliers qui supportait la bâche remplie d'eau de pluie. Une seconde avait suffi à la tremper jusqu'aux os. Georges n'aurait pas pu mieux calculer l'endroit précis où la placer pour recevoir cette douche glacée. Son mental s'était ingénié à la taquiner. « Alors, tu vois pourquoi il est bon d'écouter ta petite voix de temps en temps ?» Son désir de comprendre le mécanisme de la pensée tourne à l'obsession. Pour se changer les idées, elle se met à lire les messages postés par ses amis sur Facebook. Elle lit le post d'un ami. « Qui aurait envie de passer les réveillons de Noël et du Nouvel An en Birmanie ?»« Mais moi, si je perçais le mystère de l'ultime secret, ça vaudrait tous les Noëls birmans du monde, » pense-t-elle. « Quelle coïncidence que je sois en train de lire ce livre dans cette période de ma vie !» s'étonne la ligne curieuse. « Est-ce vraiment une coïncidence ?» s'ingénie à semer le doute la ligne incrédule. « Et c'est reparti pour un tour, » râle la ligne fatiguée de cet agglomérat de pensées. Des bribes de ses lectures tournoient dans son essorieuse salade. « Tout vient à propos, paraît-il, » souffle la ligne intello. Le subconscient nous guide vers telle ou telle lecture. Le cerveau retient l'information dont nous avons besoin à un moment précis de notre existence. Lynn se secoue, reprend le fil de sa traduction qu'elle abandonne une nouvelle fois pour poursuivre la préparation du repas. Alors qu'elle déambule dans la cuisine, elle repense à une phrase du livre de Bernard Werber. D'un côté la folie, de l'autre la religion. Deux refuges pour les esprits tourmentés. Ah ça, la religion, j'ai baigné dedans toute mon enfance, se dit-elle. Quant à la folie, susurre la ligne perfide. Le réel, c'est ce qui continue d'exister lorsqu'on cesse d'y croire, avait-elle lu. Mais n'y a-t-il pas plusieurs regards possibles sur une réalité ? La réalité est-elle vraiment la même pour tout le monde ? S'interroge la ligne intriguée. Et si c'était vrai que nous créons notre propre réalité, que nous créons le monde dans lequel nous vivons, complète la ligne itérative. Tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, corrige la ligne cérébrale. C'est notre perception de la réalité que nous créons nous-mêmes, que nos parents, notre communauté, notre culture créent pour nous. Oui, mais où est la limite entre le réel et l'irréel ? Insiste la ligne inquiète. Peut-être suis-je victime d'hallucinations ? Ou bien tu te fais un cinéma, fait la ligne cinglante. En même temps, elle se dit, Werber a raison. Ce n'est pas parce qu'on y croit qu'une chose existe. Ça existe même si on n'y croit pas. Elle prend l'exemple du shiatsu qui marche même si l'on n'y croit pas. Donc, ce n'est pas une question d'y croire, mais de savoir, devine la ligne triomphante. Encore faut-il être sûr de ce que l'on sait, se contredit la ligne pinailleuse, se remémorant la citation de Stephen Hawking qu'elle a découverte quelques jours plus tôt. Le plus grand ennemi de la connaissance n'est pas l'ignorance, c'est l'illusion de la connaissance. « Oh, vos gueules, les mouettes !» s'écrie la ligne exaspérée. Toutes ces voix dans sa tête sont épuisantes. Ce brassage de pensées tourne à la ratatouille, trouve-t-elle. Il faut qu'elle se fasse soigner, cela ne peut plus durer. Elle recherche le numéro d'appel du service de psychiatrie de l'hôpital Erasme. Elle en aura le cœur net. Elle se doute qu'elle n'aura pas un rendez-vous dans l'immédiat. Lorsqu'elle appelle le service des consultations, elle n'est pas étonnée d'apprendre que la première date de libre est située des mois plus tard. Le rendez-vous pris, elle retourne à ses fourneaux. Tout en touillant dans ses casseroles, elle se surprend à préparer mentalement ce qu'elle souhaiterait dire à la psychiatre, et déjà elle a envie de revenir sur sa décision. Le rendez-vous est encore éloigné et déjà le doute l'assaille. La psychiatre va-t-elle la comprendre? Elle a elle-même la sensation de ne pas comprendre son propre fonctionnement, son propre ballottement constant entre joie insouciante et doute, peur, incertitude. Elle téléphone à Nalan, une copine dont elle s'était rapprochée au cours de Shiatsu et qu'elle avait perdue de vue entre-temps. Très vite, les deux femmes reprennent leur amitié exactement où elles l'avaient laissée, comme si le temps n'avait eu aucun impact. Elles sont sur la même longueur d'onde. Lynn est enchantée de découvrir qu'elle n'est pas la seule à se poser un chapelet de questions existentielles. Elle évoque sa perception d'intuition, qu'elle prend pour des signes, tout en se demandant si elle a bien la potiche sur la commode, comme a l'habitude de dire son parisien de mari, comme elle l'appelle pour rigoler même s'ils ne sont pas mariés. J'ai découvert récemment que, quand je sens des frissons sur les bras, les intuitions se révèlent juste, explique Lynn. Quand je suis dans le bon, je suis parcourue de frissons, surtout au niveau des bras. Ah bon? Donc toi, tu ressens des frissons sur les deux bras, commente Nalan, comme si elle en prenait bonne note. Si je disais toi, tu ne me croirais pas, répond Lynn en rigolant. Puis, redevenant sérieuse, elle raconte. À propos de frissons, j'ai eu une révélation récemment. Georges s'est mis en quête d'un piano d'occasion. Il m'a demandé de l'accompagner pour en choisir un. Je me suis mise à jouer sur différents pianos, mais j'étais intimidée par les trois hommes présents dans la pièce en plus de Georges. Je massacrais littéralement les deux mêmes morceaux, passant d'un piano à l'autre. Pourquoi dis-tu que tu massacrais le morceau ? Demande Nalan. Es-tu sûr de ne pas être un peu dur avec toi-même ? Non, non, je t'assure, je n'ai jamais réussi à jouer en public, jamais, quel que soit l'instrument que je jouais. Mais là, petit à petit, j'ai pris confiance en moi. Je me suis dit, tu fais plaisir à Georges, tu es là pour l'aider à écouter le son des différents pianos. Et j'ai mieux joué. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à ressentir des frissons sur les bras. Mais alors, quand je me suis installée devant le seul Steinway de l'entrepôt et que j'ai commencé à jouer, j'ai été prise dans un tourbillon d'émotions. C'était magique. Je trouvais moi-même que c'était magnifique ce que mes mains étaient en train de jouer. J'étais envahie de frissons qui grimpaient, qui grimpaient, qui grimpaient. Des mains, aux poignets, aux coudes, aux épaules. Et là, j'ai arrêté de jouer en plein milieu du morceau. Je n'allais quand même pas me laisser chatouiller dans le cou. Nalan éclate de rire. Lynn reprend sa description. Bon, sérieusement, j'avais tout à coup une telle conscience aiguë du truc, c'était tellement bizarre que je me suis arrêtée immédiatement, totalement incrédule. J'étais en train de me dire « c'est moi qui suis en train de jouer comme ça ?» Je n'en revenais pas. Plus tard, Georges m'a raconté qu'il avait lui-même été submergé d'émotions. Je n'avais jamais approché un Steinway de ma vie et le toucher est tout simplement merveilleux. Et tu sais ce que je retiens de cette expérience ?
Non, dis-moi.
Eh bien, j'ai compris que je pouvais être une autre personne que moi. Et ça, c'est une pensée qui me donne beaucoup d'espoir.
Pourquoi d'espoir ? Qu'est-ce que tu n'aimes pas en toi ?
Ce que je n'aime pas en moi ? Ben tout.
Bon, j'exagère comme toujours, mais je suis la première à m'autodétruire.
Tout ce stress, toutes ces peurs, cette culpabilité.
Je voudrais tellement pouvoir poser ma tête sur l'oreiller le soir et ne plus penser. Trouver l'interrupteur pour éteindre le cerveau, me débarrasser de cette fatigue, me réveiller pour une fois avec le sentiment que tout va bien, que je n'ai plus à avoir peur.
Si tu décides qu'à partir de maintenant tout va bien, dit Nalan, les choses vont se mettre en place pour que tout aille bien.
Nous sommes les artisans de nos vies. Si nous les voulons belles, elles seront belles.
C'est comme la santé. Chacun possède en lui la capacité de guérir ou de maintenir la pleine santé. Il faut juste le savoir.
La santé n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, elle est le lot de tous.
Oui, j'ai déjà entendu ce genre de discours, mais je ne parviens pas à le mettre en pratique.
Oh, attends, je ne cesse de répéter autour de moi les belles paroles en bonne faiseuse de leçons que je suis, mais je rencontre les mêmes difficultés que toi.
Et tu as aussi parfois des intuitions ou des rêves prémonitoires ?
Oui, régulièrement. Tu sais, cette semaine, j'ai rêvé qu'on installait un volet dans le bureau au boulot. Le lendemain, en arrivant, j'ai vu que le volet était là.
Une autre fois, je rêvais qu'une sirène de voiture allait retentir et quelques minutes plus tard, une alarme de voiture se déclenchait dans la rue.
Oui, à croire que le temps est une notion beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît.
Y aurait-il plusieurs créneaux, plusieurs couches ?
Vraiment bizarre qu'on ne puisse pas comprendre ces phénomènes, pourtant bien réels, puisque nous sommes loin d'être les seuls à les vivre.
Ce genre de rêve, dit Lynn, je n'en fais pas très souvent.
Par contre, quand ça m'arrive, je peux t'assurer que je m'en souviens tellement ça me marque.
J'ai par exemple un souvenir de quand j'étais en sixième primaire. J'adorais Sophie, une de mes meilleures amies. Un matin, je me réveille et me souviens très nettement du rêve que j'ai fait. Sophie était allée s'acheter de nouveaux vêtements avec sa maman et me les montrait fièrement le lendemain à l'école. Ce qui était frappant dans le rêve, c'est que la robe était d'une couleur vive, que Sophie ne portait jamais. J'arrive à l'école et je vois Sophie portant ses tout nouveaux vêtements, exactement comme dans mon rêve. Complètement flippant.
Oh oui, c'est impressionnant, dit Nalan.
Comme souvent, lorsqu'elle est lancée sur le sujet, Lynn est intarissable. Elle continue. J'ai même déjà vécu ce genre de choses éveillées. Parfois, l'image mentale me parvient des mois avant l'événement lui-même. Mais ce qui m'arrive le plus souvent, c'est d'avoir l'impression que je vais voir une personne et quelques minutes plus tard, je la vois exactement à l'endroit où j'avais imaginé la rencontrer. En général, je n'écoute pas si c'est une injonction, par exemple, ou je n'y crois pas. L'autre soir, par exemple, j'allais à une avant-première. La marraine de Daphné avait gagné des places et me les avait données. Lorsque nous sommes arrivés, Georges et moi, dans la grande salle bondée de l'UGC, au moment précis où nous descendons les marches pour trouver des places dans les premiers rangs, parce qu'il faut dire que je m'en suis trouvé un commode de Marie. Plutôt que d'aller chez l'opticien changer de lunettes, il préfère imposer à toute la famille de se placer dans les premières rangées, le zigoto.
Lynn ne peut s'empêcher de rire de concert avec Nalan qui se marre.
Elle reprend. Je disais donc, au moment où nous parcourons l'allée, j'ai une idée qui me traverse l'esprit. Il y a quelqu'un que je connais dans cette salle.
J'ai pensé, dis, tu ne vas tout de même pas te mettre à dévisager tout ce monde pour voir si tu ne reconnais personne.
Le lendemain, j'ai envoyé un mail à mon amie pour la remercier et elle me répond en me demandant si je n'ai pas vu sa maman que je connais bien et qui y était parce qu'elle lui avait aussi donné des places gagnées.
C'est quand même fou, non ? Comment est-ce possible ? Oui, je sais, je vis aussi des phénomènes pareils. Mais tu vois, je me dis souvent que je suis juste victime de mon imagination un peu trop fertile, que ce ne sont que des coïncidences, ou encore que je suis trop crédule. Comment est-ce que tu vis tout ça, toi ? Demande Lynn à Nalan. J'essaye de ne pas me laisser envahir par la peur. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'aimerais savoir. Il y a longtemps, quelqu'un que je ne connaissais pas m'a dit qu'il pensait que j'étais la déesse de la compassion. Je ne connaissais rien de tout cela et je ne m'y intéressais pas du tout. Cet homme aux allures d'illuminé m'a fait peur. Aujourd'hui, je dois bien reconnaître qu'il savait quelle direction mes pas finiraient par prendre. Sans doute le sais-tu, Kuan Yin a renoncé au grand tout pour aider les humains. J'aimerais voir l'invisible accéder à ce grand tout. Quand je t'entends me raconter tes expériences, j'ai la sensation qu'il y a curieusement des choses qui se rejoignent dans ce que tu dis et ces bribes de mon passé. Toi et moi cheminons sur la même route. Que dirais-tu de partager nos expériences au fil du temps et voir si nous trouvons des réponses ensemble ? Oh oui, dit Lynn, ce serait bien, je suis d'accord. Il t'arrive de recevoir des messages ? Demande Nalan. Oui, je n'osais pas parler ouvertement de messages parce que c'est là où tu te dis « Oh, tu ne reviendrais pas sur Terre quelques instants ?» Tu veux vraiment te faire passer pour une folle ? Tu n'es pas folle, dit Nalan. Tu n'es pas la seule à percevoir des choses, à être guidée. Oui, c'est vrai que même un gars m'avait dit au boulot que je ne devais pas hésiter à demander de l'aide aux entités qui me guident, en me laissant le choix de les appeler comme je veux. Mais en même temps, c'est peut-être juste une question de conviction religieuse ou spirituelle. Oui, peu importe. L'important, c'est de partager. Si tu penses recevoir un message, ne te pose pas de questions, contente-toi de le transmettre. Mais c'est bien là le problème, dit Lynn. La plupart du temps, je ne comprends même pas le message. Je n'ai aucune idée de ce que je suis censée en faire. L'autre jour, j'écoute la radio et une phrase s'est comme détachée du reste. C'est difficile à exprimer comme phénomène, un peu comme un passage qui te sauterait aux yeux dans un livre. Ah bon ? Et c'était quoi la phrase ? Il faudra le communiquer aux autres. Oh, ça me semble clair comme message. Tu en as de bonnes, toi, fait Lynn en riant. Que veux-tu que je communique ? Et à quels autres ? Je pense qu'avec le temps, ça viendra. Écoute cette petite voix. Tu auras tes réponses. Patience, petite chenille. Un jour, tu seras papillon. Extrait du journal intime. Le 14 novembre 2012. Je me suis inscrite à l'école du dos, car je souffre trop souvent de douleurs un peu partout dans le dos. Une fois par semaine, le mercredi, je vais à la kiné en salle, et le vendredi à la kiné en piscine. Vendredi passé, c'était ma première séance d'hydrokiné. J'avais rendez-vous à 8h30. La dame m'avait indiqué les cabines et les casiers, m'avait dit de prendre un maillot, ben oui, c'est utile, un bonnet, obligatoire, et 1 € pour le casier. Je me change donc, place mes affaires dans un casier et entre dans la salle. Je contourne une baignoire plantée pile devant l'entrée. C'est dans la commode, où un monsieur reçoit une séance de kiné individuelle. Bonjour, bonjour. J'arrive à la piscine, entre guillemets. Un bassin qui doit faire à peu près 5 mètres sur 3. J'entends la kiné donner des instructions à un groupe agglutiné dans la moitié droite de la piscine. On plie les jambes et on se relève. Et on plie, 2, et hop, 3, et hop. Je savais que la séance était collective, mais je ne m'attendais pas à tant de monde. Il y avait déjà 7 personnes dans l'eau. Encore heureux que je ne portais pas mes lunettes, car si j'avais vu à qui j'avais affaire, J'aurais peut-être changé d'avis avant d'entrer dans l'eau. Moyenne d'âge, 80 ans. Bon, j'exagère un peu, mais à peine. J'approche du troupeau avec réticence, et voilà la kiné qui me présente au seul homme du bassin. « Vous voyez, docteur Machin, c'est madame... »« Madame comment déjà ? Présentez-vous. »« Madame Van der Kinder. »« Comment ?» fait l'homme. Je répète, « Van der Kinder. »« Lynn, c'est plus simple. » La kiné répète en hurlant dans l'oreille de l'homme. « Madame Van der Kinder. » Et en se tournant vers les autres en riant, il est un peu sourd. Elle se tourne vers la dame à ma droite. « Et vous, présentez-vous à monsieur machin-chose. »« Moi, c'est Marie-Yvonne, c'est plus simple. » Et toutes les autres de se présenter par leur prénom. Je regarde donc ces dames une à une, ce qui me permet de constater avec un certain soulagement qu'une des dames présentes est à peine plus âgée que moi. Ouf. Moi, c'est Claire, comme le clair de lune, et toutes les petites vieilles de bouffée. La kiné, Hilar, se tourne vers l'homme. Vous allez retenir tous ces prénoms? Comment? Vous allez retenir tous ces prénoms? Non. Pas grave, conclut-elle en éclatant de rire. J'ai beau me forcer, je ne vois rien de drôle jusqu'ici. Elle nous apprend que monsieur est de la maison. C'est un ancien professeur qui exerce ici. Dans quelle discipline déjà ? Fait-elle en se tournant vers le vieux monsieur. Comment ? Dites-leur dans quelle spécialité vous étiez, docteur. Le médecin indique de la main les poumons et la kiné de traduire à notre intention. Ah oui, pneumologue, vous vous rendez compte ? C'était un pneumologue, un professeur ? Ajoute-t-elle en se rengorgeant de fierté de compter un personnage aussi illustre parmi ses patients. À ce stade, je me demande ce que je suis venu faire dans cette galère. Je me croirais dans un club mètre quatrième âge, avec pour géo une kiné hyper joviale, à peine plus jeune que ses patients. La dame me tire de mes réflexions et m'invite à prendre place à la barre. Si vous savez nager, vous pouvez aller dans la grande profondeur. Va pour la grande profondeur. Un bien grand mot pour m'avertir que je risque d'avoir de l'eau jusqu'aux épaules. Et me voilà à faire quelques exercices pas bien méchants à première vue. Les instructions se succèdent. À intervalles réguliers, la kiné me demande « Ça va, madame Vander, quelque chose marmonné entre les dents ?»« Oui, oui, ça va. Je sens que ça travaille, mais c'est bien. »« Oui, c'est ça, on travaille, mais dans la bonne humeur. » Je ne prends pas la peine de rectifier. Au bout de quelques minutes, la kiné s'exclame. « Ah, voilà les sœurs !» Je me retourne et vois effectivement arriver deux bonnes femmes quasi identiques. Assez grandes, plus très minces, même maillot noir et même bonnet de douche, blanc à point mauve. Il faut dire que la kiné elle-même porte aussi un bonnet de douche, à fleurs bleues, frou-frou et petits nœuds. Leur arrivée provoque un déferlement d'éclats de voix aiguës, un vrai poulailler. La kiné rappelle gentiment le groupe à l'ordre et poursuit les exercices. Elle s'interrompt et fait sortir le monsieur. La première fois, il vaut mieux s'en tenir à 20 minutes, car c'est plus fatigant qu'il n'y paraît, la piscine. Les exercices se suivent, bien pensés et efficaces. Je sens la fatigue s'installer. La kiné nous dirige. On plie la jambe en levant le genou bien haut et on repose le pied. On le relève. 2 et hop. 3 et hop. Jusqu'à 10. On passe à l'autre jambe. Très bien. Les deux jambes en même temps maintenant. Alors que je me concentre sur l'exercice, une voix haut perchée me perce le tympan. La dame appelée Claire pousse des cris aigus en commentant « Ouh, ouh, ça sort! Regardez, ça sort! Ouh, ouh !» Traduction, ses genoux sortent de l'eau lorsqu'elle plie les jambes et reblotte toute la volaille de s'esclaffer bruyamment. On enchaîne avec un autre exercice. La kiné me demande si je ne veux pas passer au massage. Elle avait déjà signalé à plusieurs reprises que celle qui le voulait pouvait aller au massage.
Massage ?
Ben oui, moi je veux bien un massage, mais où ? Elle actionne un bouton au bord du bassin et déclenche ainsi un jet d'eau. J'enjambe la barre pour aller me poster devant le jet. Ce qui ne me dispense pas pour autant de continuer les exercices avec les autres. On lève la jambe droite en diagonale et on la repose. Et on la relève. 2. Et hop. 3. Et hop. L'une des sœurs commente à côté de moi dans un accent bruxellois à couper au couteau.
J'ai l'impression d'être un flamand rose, dit.
Distribution de boudins de couleur que la kiné nous invite à dresser en arc de cercle au-dessus de notre tête. Rotation des hanches vers la gauche, puis vers la droite. Et la kiné de crier bien fort en direction de la baignoire située à l'entrée de la salle. « Monsieur van der Meeren, c'est le moment d'applaudir !» Et toutes les petites vieilles de rire, y compris moi cette fois. Et maintenant, la détente, enchaîne la kiné. Vous pouvez faire l'hippocampe. Elle m'explique. Passer le boudin entre les jambes pour être suspendu dans l'eau et aller rejoindre ces dames dans la grande profondeur. Puis vous pédalez dans l'eau en rond l'une derrière l'autre pour que je puisse faire la floche. J'hésite une fraction de seconde, pas très sûre de ce que j'ai entendu. Puis j'éclate de rire. La floche ? Elle veut vraiment dire la floche comme au manège, puisqu'elle tient un boudin bleu suspendu au-dessus de nos têtes, que chacune est censée essayer d'attraper en passant devant elle. Elle m'exhorte. « Allez-y, Madame Vanderbilt !» Mamie au pied aidant, je ne suis pas sûre de savoir à qui elle parle, mais j'ai l'impression qu'elle s'adresse à moi. « Allez, Madame Vanderbilt, pédalez !»«
Pédalez, moi je veux bien, mais la bobonne devant moi n'avance pas d'un pouce. » J'aurais du mal à faire quoi que ce soit qui ressemble un tant soit peu à l'exercice demandé.
Je me contente donc de piétiner sur place dans la grande profondeur. La kiné comprend mon embarras et, toujours aussi enjouée, continue sur le ton d'annonce au micro. Madame Verwisch va être le premier cheval à sortir, suivi de Madame Untel. Comme ça, les autres auront plus de place sur la piste. C'est effectivement nettement plus facile. Et efficace. Arrive enfin mon tour de partir. La kiné m'explique. Il vaut mieux ne pas trop forcer la première fois. Elles ont l'habitude, elles. Elles viennent ici depuis 10 ans. Je manque d'avaler de travers. 10 ans ? Je me dis en affichant un sourire de façade. Me dis, je ne vais pas moisir ici pendant 10 ans, moi. Tu vas voir comme je vais m'appliquer à faire mes exercices à la maison.